Mais Dieu nous parle et Dieu va sûrement nous parler ce matin. C'est pas pour rien qu'on arrive à ce moment-là dans Hébreux chapitre 2. Donc, nous avons vu dans le chapitre 1 d'Hébreux que Jésus est supérieur aux anges. À l'époque, les Juifs, le peuple d'Israël, mettaient sur un piédestal les anges, avec raison quand même, parce qu'ils voyaient que c'est par l'entremise des anges que Dieu avait révélé sa volonté dans l'Ancien Testament. Et que souvent, les anges ont joué un rôle de messager pour les services de l'humanité. Mais ils devaient comprendre, et c'est pour ça que l'auteur insiste beaucoup, ils devaient comprendre que Jésus est de loin supérieur aux anges. Et dans le chapitre 1, il s'attarde à expliquer que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas une simple créature comme les anges, il est le Créateur. C'est par Jésus que Dieu a tout créé, le monde visible que l'on voit et le monde invisible qui contient les anges, les archanges et toutes les principautés du monde céleste. Jésus est supérieur aussi parce qu'il est éternel. Il existait avant même que les anges existent. Il a toujours existé. Il est tout puissant. Il connaît tout. Il peut être partout à la fois. Il est omniprésent. Il est supérieur en tout. Et il révèle Dieu non seulement par le message qu'il transporte, mais par sa propre personne. Plus on étudie qui est Jésus, et plus on connaît le Père. En connaissant Jésus, on connaît qui est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu, engendré de Dieu depuis toute éternité. Mais plusieurs aujourd'hui préfèrent quand même adorer des anges. Une bonne partie de la population vénère les anges, en tout cas plus ou moins ouvertement, mais parce que les anges, ils le voient comme des divinités. Et Jésus, on sait, il est venu en tant qu'homme. Comment un homme pourrait être plus grand que les anges? OK, vous me dites que c'est le Fils de Dieu, mais moi, ce que je connais, c'est le Jésus que j'ai vu dans l'émission, là, dans le film Jésus de Nazareth. C'est un Jésus humain, là, en chair et en os. Comment il pourrait être supérieur aux anges? Mais le chapitre 2 s'attarde justement à cela. On a vu que le Fils de Dieu est supérieur aux anges, mais le Fils de l'homme est supérieur aux anges aussi. Même Jésus, en forme humaine, est de loin supérieur aux anges. Parce que, premièrement, on va voir la gloire qui lui revient est une gloire supérieure à la gloire que les anges peuvent expérimenter. La gloire qui lui revient est la gloire de Dieu. Et aussi parce que son œuvre, ce qu'il a accompli en tant qu'homme, est de loin supérieure à toute œuvre que les anges ont pu faire ou pourraient faire. Donc, lisons ensemble Hébreux, chapitre 2. On avait déjà vu les quatre premiers versets la semaine passée où on a un sévère avertissement de ne pas délaisser la parole de Dieu puisqu'il est supérieur aux anges. Et on continue au verset 5. Donc, Hébreux, chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Cette phrase-là n'est pas dans toutes les versions. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait, en effet, à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée », et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Il y a beaucoup de viande dans ces versets. L'auteur commence par nous rappeler que le monde qui est à venir, dont il parle, dont Jésus a annoncé la venue et dont les apôtres ont annoncé la venue aussi, ce n'est pas aux anges qu'il a été remis. C'est-à-dire, ce ne sont pas les anges qui vont régner sur ce monde à venir-là. Ce monde à venir n'est pas sur cette terre, ce n'est pas le monde qu'on connaît. Jésus l'a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est le monde céleste, mais qui un jour descendra sur terre, qui sera non seulement spirituel, mais physique aussi. La nouvelle terre, une terre éternelle, il n'y aura plus de douleur, plus aucune corruption, rien d'impur. Le royaume éternel de Dieu, un monde parfait. Mais ce monde-là ne sera pas dirigé par les anges, ceux que beaucoup considèrent comme des dieux. Il sera remis aux hommes. Ce futur monde, ce ne sera pas les anges qui le gouverneront, mais les humains. Et pour le démontrer, il cite le passage des Écritures en disant « Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. » Ce n'est pas que l'auteur ne savait plus qui avait dit ça ou à quel endroit le trouver, mais c'est une expression à l'époque qu'on trouve dans certains textes de l'époque aussi pour dire « Ici, ce qui est surtout important, ce n'est pas qui a prononcé ces paroles et pas tellement non plus où est-ce qu'on les trouve. Ce qui est surtout important, c'est la vérité qui se trouve parce que c'est la parole de Dieu. » Ce n'est pas qu'un simple homme qui a dit ses pensées, c'est la parole inspirée de Dieu. Donc, c'est une manière de dire « quelqu'un a dit quelque part » pour souligner que ce qui est important, c'est le texte lui-même. Mais on sait que ça vient des Écritures. C'est pour ça même que la Bible sommaire traduit une parole des Écritures, je pense. Et il cite un extrait du psaume 8. On peut aller lire ensemble, mais tenez un doigt dans Hébreux 2. Et tournez, s'il vous plaît, dans Psaume 8, ou vous pouvez simplement écouter. Psaume chapitre 8. Si vous ouvrez votre Bible au milieu, là, vous n'êtes pas loin des psaumes. Psaume 8, c'est un psaume écrit par David, qui l'adresse au chef des chantres, au chef des chœurs, et lui-même donne instruction de jouer ça à la harpe de Gath, sur la guittite. Et il dit, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Donc, c'est ce passage qu'il cite dans Hébreux 2. Il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » C'est la version Septante qui est utilisée ici. L'auteur d'Hébreu avait sous la main la version traduite en grec. C'est une des plus anciennes traductions, probablement la première traduction qu'il y a eu de l'Ancien Testament. Ça a été écrit en grec. Donc, les mots, parfois, sont un peu différents parce que c'était le choix des traducteurs de l'époque. Mais ici, c'est cette traduction-là qui est utilisée. C'est mot pour mot le texte de la version grecque. Les mots sont légèrement différents, mais le sens est conservé. Puis la citation commence par « Qu'est-ce que l'homme? » David, c'était en observant l'univers, la création de Dieu. Il voyait la majesté de Dieu. Et ça lui a sauté aux yeux. « Comment, moi, un homme si petit, si faible, je peux attirer ton attention, attirer l'attention du Créateur? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te tournes vers lui? » Le premier qui s'est posé cette question-là dans la Bible, un des plus vieux textes, c'est Job. Alors qu'il souffrait beaucoup, puis il voyait qu'il était convaincu que les souffrances qu'il vivait, c'était parce que Dieu portait attention à ses péchés, qu'il était en train de l'évaluer. Et il se demandait, est-ce que j'ai un Dieu injuste ou pas, là? Mais ça l'a impressionné de voir le Dieu de l'univers, le Créateur, le Tout-Puissant, qui prenne le temps d'évaluer un être humain. Puis il dit dans Job 7, 17, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tout instant? » C'est parce qu'on sait que l'homme est faible. L'homme est fragile. Dans Psaume 8, vous avez peut-être remarqué la différence. Il est dit qu'il a été fait, l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. Et ici, dans Hébreu, c'est devenu de peu inférieur aux anges. Comment ça se fait? Mais c'est pas si loin. C'est parce que le texte en Hébreu, dans l'Ancien Testament, dans Psaume, le mot qui est traduit par Dieu, c'est Elohim. C'est Dieu au pluriel. La plupart du temps, presque toujours, ce mot-là est traduit par Dieu. Mais c'est aussi utilisé parfois pour désigner les faux dieux ou les dieux des peuples. On va utiliser le mot Elohim. Et à quelques occasions, on voit clairement que ça désigne non seulement Dieu, mais la cour de Dieu, l'assemblée de Dieu, donc les anges, les êtres célestes. Et ça fait du sens. Les traducteurs de la version grecque, ça faisait du sens qu'ils choisissent le mot ange pour traduire. D'ailleurs, certaines versions en anglais, comme la King James, ou certaines en français aussi, la Osterwald, l'ont traduit « les anges ». D'ailleurs, dans Job, les Elohim sont appelés les fils de Dieu, et ça désigne vraiment les anges. Mais ça fait du sens que ce soit les anges, parce qu'on a lu dans le psaume 8 quel est le nom qui est donné à Dieu. On le voit au début du psaume et à la fin du psaume, c'est « Éternel » et « Yahvé » et « Mon Seigneur » Adonai. Donc, lorsqu'il s'adresse à Dieu, il l'appelle « Éternel », « Mon Seigneur ». Et il conclut à la fin par le même titre, « Éternel, mon Seigneur ». Au milieu, il l'appellerait Dieu. Et aussi, logiquement, s'il s'adresse à Dieu, il dirait, « Qu'est-ce que l'homme que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. » Pourquoi en s'adressant à Dieu, il dirait, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » On ne trouve pas ça dans les psaumes habituellement. Lorsqu'on s'adresse directement à Dieu, on ne parle pas de Dieu, on parle à toi, tu. On s'adresse à la deuxième personne. Donc, ça ferait du sens qu'il parle des dieux. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce qui est important ici, c'est le point de vue de l'homme. C'est que l'homme regarde et il voit la majesté du royaume visible qu'on a, mais on sait que tout cela est inférieur au monde invisible. Tout ce qui est céleste, que ce soit Dieu le Créateur ou les anges, c'est supérieur à l'homme. Donc, l'homme est inférieur à ce qui est céleste. Mais l'homme est quand même montré comme ayant la domination sur ce monde. Ça, c'est la pensée du premier texte de la Bible dans Genèse. Dès la création du monde, Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image » dans Genèse 1, 26. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, à l'origine, L'homme a été créé pour régner sur le monde connu. Et peut-être même gagner en puissance et en gloire, en honneur. Régner aux côtés de Dieu, aux côtés de son Créateur. C'est le seul être de qui Dieu a dit qu'il l'avait créé à son image. À l'origine, l'homme était supposé d'être sur la terre et vivre dans la soumission de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Oui, mais par cette obéissance-là, d'être élevé au rang de Dieu, d'être vu non seulement par les animaux, mais même pour le monde céleste qui le regarde, même par les anges, l'homme était censé être vu comme d'être élevé à la hauteur de Dieu. Mais vous savez ce qui est arrivé dans la suite? L'homme a péché. Et lorsque Adam a péché, la gloire de l'homme a été atteinte. Et le plan original, ou la destinée originale de l'homme a été changée. Il était supposé gagner en gloire et honneur, mais il a été privé de l'honneur de Dieu. Il a même été rejeté du jardin d'Éden. Et sa gloire est éternée. Oui, l'homme règne encore sur le monde. Mais est-ce qu'il est un bon maître sur le monde? On le voit de toute évidence que non. On est en train de détruire la terre par la pollution. Et même entre nous, on est en train de s'auto-détruire. L'homme a été créé pourtant pour avoir tout sous ses pieds. Mais malheureusement, il est devenu mortel et prisonnier du péché. C'est ce qui fait dire à l'auteur d'Hébreux, dans chapitre 2, au verset 8, « Tu as tout mis sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses y soient soumises. » La race humaine n'a pas l'air d'être honorable. On ne dirait pas que le monde lui est soumis. Et on ne dirait certainement pas que le monde à venir sera parfait, sans corruption, sans impureté, et va être soumis à l'homme. Celui qui devait dominer est devenu esclave. Mais le psaume 8 demeure quand même positif. Parce que malgré tout, même en reconnaissant à quel point l'homme est misérable et la durée de sa vie est courte, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se prenne garde à lui? Malgré cela, c'est positif. Il dit « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur ». C'est un psaume qui montre l'espoir d'une gloire. Mais il y a un dilemme, là. On voit que l'homme est misérable. Pourtant, Dieu l'a couronné. Sa destinée est supposée quand même d'être glorieuse. On voit qu'il y a une tension ici là, qui n'est pas résolue. Ça amène à chercher l'intervention de Dieu. Dans le fond, c'est un psaume qui appelle au Messie, à la promesse de Dieu qui un jour promettait « Je vais venir sur la terre en tant qu'homme. » Et là, l'homme, cet homme-là, cet homme Dieu, va pouvoir être couronné de gloire et d'honneur. Et la race humaine va pouvoir regagner ses blasons grâce à cet homme-là. C'était le Messie qui était attendu. Un Dieu fait homme qui allait pouvoir rétablir la destinée glorieuse de l'homme auprès de Dieu. Donc, Hébreux 2 va dans ce sens. Je pense que lorsqu'il nous cite le psaume 8, c'est d'abord en regard à l'homme. C'est la situation de l'homme qui est montrée ici. Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait inférieur aux anges. Mais c'est clair que l'auteur d'Hébreux voyait que dans le psaume 8, il y avait un appel au Messie qui était là. Et lui-même se tourne vers Jésus. Lui aussi va dans le même sens. Et de peu inférieur aux anges, c'est devenu pour un peu de temps inférieur aux anges. Ça aussi, lorsqu'on traduit, c'est correct. Parce que le mot « peu » vouloir dire « peu » en attribut ou « peu » en temps. Mais je pense que le psaume est assez large pour que les deux sens soient permis. Mais ici, l'auteur d'Hébreux insiste là-dessus pour montrer que oui, la situation de l'homme est qu'aujourd'hui, on est inférieur aux anges. Mais c'est pour peu de temps en comparaison à l'éternité. Et un jour, cette destinée qui semble misérable va être transformée. Et comment ça s'applique, comment ça se concrétise, c'est en Jésus. C'est ce qui l'amène au verset 9 à dire... Celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Là, il ne parle plus seulement de l'homme en général. Il parle de Jésus. Celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Donc Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme, il a pris une forme humaine. Alors que l'humanité était encore misérable, il s'est abaissé, on le voit dans Philippiens aussi, il s'est abaissé à prendre la forme de sa créature et à marcher parmi les êtres corrompus qui sont privés de la gloire de Dieu. Et il est devenu un homme. Et il a été inférieur aux anges pour un temps. Le monde céleste lui était supérieur. Il s'est humilié à être inférieur aux anges, aux dominations célestes. Pour un peu de temps. Mais quand il a volontairement donné sa vie, il a été honoré. Il est ressuscité pour être couronné de gloire. C'était le plus grand honneur que Dieu pouvait lui faire, là. Il dit, mon fidèle serviteur qui a été prêt jusqu'à mourir pour moi, je ne te laisserai pas dans ces jours des morts. Et il l'a relevé. Il l'a ressuscité en lui donnant un corps glorieux. Il lui a donné, dans le fond, la destinée que l'homme aurait dû avoir au début. Lorsqu'on était encore dans le jardin d'Éden, Jésus était le vrai humain comme il devait être, sans cette nature pécheresse. Et il l'a honoré, il lui a donné la gloire que Dieu avait prévu donner aux hommes. Et Jésus est Dieu, c'est vrai. Il n'avait pas besoin d'être élevé plus haut que cela. Mais en prenant la forme d'un homme, il a pu être élevé au rang de Dieu. Il a retrouvé la gloire qu'il avait auprès du Père pour l'éternité. Il a été élevé au plus haut rang. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus est encore un être humain. S'il a été élevé au plus haut rang, ce n'est pas parce que finalement, il a laissé sa nature humaine sur la terre. Il est encore un être humain. C'est en tant qu'homme qu'il a été élevé au plus haut rang. Il a été élevé au rang de Dieu. Il a dépassé les anges et les archanges et tout pouvoir qui peut exister. En tant qu'être humain, il est au rang de Dieu. Il est un avec Dieu même. C'est ça qui est étonnant. Et il va rester le Fils de l'homme pour l'éternité. En même temps, il est Dieu. Ça, c'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. On peut seulement y croire. Ce qu'on peut comprendre, en tout cas, c'est qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain comme nous, il a connu la mort, mais il a été élevé au rang de Dieu. Et c'est vrai que pour Jésus aussi, on ne voit pas pour l'instant que tout lui est soumis. Si on regarde la société, si on regarde ce monde est loin de lui être soumis. Et la Bible même nous enseigne que dans le monde invisible, même tout ne lui est pas soumis. Satan, les démons sont encore actifs. Il y a encore de l'oppression. Il y a encore une guerre spirituelle qui se passe, là. Le sort de l'humanité est encore tiraillé. Satan veut garder prisonniers les hommes. Donc, tout n'est pas, ne semble pas être soumis à Jésus. Mais le fait qu'il a été couronné de gloire, qu'il est ressuscité, qu'il est monté aux cieux devant plusieurs témoins, devrait être suffisant pour qu'on ait la foi qu'il est glorifié. C'est pour ça que l'auteur enchaîne ensuite avec une démonstration de son œuvre qui a permis qu'il soit glorifié. Qu'est-ce qui fait que Jésus ait reçu les si grands honneurs? Il y a trois choses qu'il nous est montré. C'est qu'en devenant un homme, Jésus a accepté d'être notre guide vers la gloire, pour nous mener à la gloire de Dieu. Et il a accepté d'être notre libérateur. Puis troisièmement, il a accepté d'être notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Le prêtre dont on avait besoin. Donc, si vous allez voir au verset 10, toujours dans Hébreux 2, Hébreux 2, verset 10, « Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, c'est-à-dire Dieu, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. » Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, et encore je placerai ma confiance en lui, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Non seulement Jésus, lorsqu'il est devenu un homme, il devait nous tracer la voie à suivre, mais il a marché lui-même dans cette voie. C'est pas seulement comme un guide touristique qui nous donne une carte et qui dit tiens, allez visiter ces endroits-là. Lui-même nous guide sur le chemin à parcourir. Et pour cela, il devait devenir un homme parmi les hommes, pour être élevé par la souffrance, au rang le plus élevé, élevé à la perfection en tant qu'homme. Mais c'est la souffrance qui a permis cela, d'être élevé à la gloire de Dieu. Ce n'était pas pour lui qu'il a souffert toutes ces choses. Parce qu'il était déjà au rang de Dieu avant de venir dans ce monde. C'était pour nous. Il est dit que la mort qu'il a soufferte, il l'a goûté pour nous tous. C'était pour nous conduire à la gloire de Dieu. Donc, lorsqu'il mourait, lorsqu'il était sur la croix et qu'il a dit « Tout est accompli, au Père, pardonne-leur », il était conscient que s'il mourait, ce n'était pas seulement pour prouver qu'il pouvait être un homme sans péché, c'était pour conduire les hommes à Dieu, à la gloire de Dieu qu'ils avaient perdue. C'est pour ça qu'il est montré comme l'auteur de notre salut. Ou dans d'autres versions, c'est écrit le prince, ou le chef, ou le conducteur, ou le pionnier. C'est parce que c'est un mot qui est très large de sens. Dans un sens, ça montre qu'il est notre guide, mais le guide qui est présent. Un guide qui nous conduit par la main. Et s'il fait tout cela, c'est pour nous amener à la gloire de Dieu. Et ultimement, il est dit au verset 10, c'est pour Dieu. Parce qu'il convenait en effet à celui, c'est-à-dire Dieu, par qui et pour qui tout existe. C'est pour ça qu'il a plu à Dieu de briser son fils. On voit dans Ésaïe 53. C'était pour Dieu. Dieu a choisi ses fils. Il les a élus. Il voulait les amener à sa gloire. Et il a envoyé son fils unique mourir pour eux, pour les conduire à la gloire. Donc, il bénéficie de la gloire, mais tout cela, ultimement, c'est pour la gloire du Père. Pour les sanctifier, les amener à être saints. C'est Jésus qui les a rendus saints par sa mort. Mais plus qu'un guide, Jésus est un guide fraternel. Il est dit qu'il est notre frère. Il n'a même pas honte, en plus, de nous appeler frères. C'est une citation qui vient du psaume 22. Et si vous avez lu le psaume 22 récemment, vous vous souvenez que c'est un psaume qui parle vraiment de Jésus, du Messie. Et il dit, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils m'observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. » Alors même que Jésus était en train d'être martyrisé, donc on plantait des clous dans ses mains et ses pieds, il voyait les fils, les enfants de Dieu, et il les appelait ses frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, puisque c'est pour glorifier Dieu le Père qu'il a adopté cette position humiliante d'être un humain. C'est pour glorifier Dieu. C'est dans Ésaïe 8 qu'on trouve les citations qui suivent, où il est dit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » C'est une citation qui... C'était une prophétie qui montrait qu'un jour le Messie qui allait venir, c'est Dieu sur terre, mais qui place sa confiance dans Dieu le Père. « Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Donc, Jésus s'est abaissé non seulement au rang des hommes, mais il s'est abaissé à être dépendant de Dieu, dépendant de la grâce de Dieu. C'était Dieu lui-même là, qui venait sur terre, le Fils de Dieu, mais il s'est humilié à être une créature, parmi ses créatures, et dépendant de la grâce de Dieu, dépendant du secours de Dieu. Et lorsqu'il se dirigeait vers la mort, là, il mourait pour vrai là, en tant qu'être humain. Et il dépendait du secours de Dieu qui allait le ressusciter. Si Dieu n'avait pas ressuscité, il serait resté dans ses jours des morts. Mais il croyait, hors de tout doute, que son Père allait le ressusciter. Il était prêt à prendre ce risque-là. Il était prêt à mettre sa confiance en son Dieu. Et il s'avançait tellement confiant qu'il amenait des gens avec lui. S'il avait douté, il n'aurait peut-être pas mis en péril la vie des gens qui l'amenaient avec lui, là. Mais il amène ses frères avec lui, les enfants de Dieu, les fils que Dieu veut conduire à la gloire. Et il veut guider ses enfants comme un guide, comme un frère, à avoir cette même confiance en Dieu. Donc, le Fils de l'homme est devenu notre guide sur la terre, un guide personnel, un frère. Mais il est devenu aussi notre libérateur. C'était essentiel. Sinon, personne n'aurait pu suivre ce guide. La Bible nous dit que nous étions comme des prisonniers. Tu as beau dire à des prisonniers, « Venez, suivez-moi, je vais vous montrer des jours meilleurs. » Mais si tu ne débordes pas la serrure, ils ne peuvent pas te suivre. Jésus a pris la peine de nous libérer. Pour ça, il devait devenir un homme aussi. C'était essentiel qu'il soit un homme. De quoi étions-nous prisonniers? Mais de la mort. Quand Adam a péché, il a détourné la race humaine de Dieu qui est la source de la vie. En brisant la communion avec la source de la vie, c'était inévitable. La race humaine tombait dans la mort. Le châtiment, c'était la mort. Ça s'est traduit par une mort physique, une mort littérale sur la terre, mais c'est aussi une mort spirituelle. C'est d'être coupé de la source de la vie pour l'éternité. Donc, la prison, c'est la mort, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Et qui est le gardien de cette prison? C'est le diable, c'est Satan. Lui a sauté sur l'occasion, c'est ça qu'il veut. Il a en horreur la destinée glorieuse des êtres humains. Pour lui, les êtres humains, ils méritent d'être détruits, anéantis. Il y a une jalousie même face au plan merveilleux que Dieu a pour la race humaine. Et il a sauté sur l'occasion, aussitôt que l'homme a chuté, pour l'emprisonner. Et il détient le pouvoir de la mort. Donc, le seul moyen pour nous d'échapper à Satan, sortir de cette prison, c'était de changer notre identité. Tant qu'on est un pécheur, on demeure prisonnier. Il fallait se défaire de notre nature pécheresse, cesser d'exister en tant que pécheur. Vraiment avoir comme de nouveaux papiers, une nouvelle carte d'identité, un nouveau passeport. Puis là, on peut changer de vie. Mais c'est impossible. Personne ne peut changer sa nature. Personne ne peut changer son identité. C'est précisément ce qu'on était incapable de faire. Et qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on était incapable? La Bible nous dit, c'est un peu un langage figuré, mais c'est la peur de la mort. Parce que c'est de ça qu'on a été libérés. Parce que notre crainte de la mort nous retenait dans l'esclavage de la mort. Notre lutte contre le châtiment de Dieu. Personne n'accepte le châtiment de Dieu de mourir, d'être privé de cette gloire. L'homme, naturellement, est rebelle à ça. N'accepte pas le châtiment. Et nous héritons ça de père en fils, de mère en fille. Nous héritons de cette nature pécheresse. Donc, Jésus est devenu un homme et a volontairement subi le châtiment que nous, on refuse de subir. Il est venu et a dit, je vais subir ce châtiment. Je ne veux pas être rebelle. L'humanité mérite de mourir. J'accepte le châtiment de Dieu et je vais mourir. En tant qu'homme parmi vous, il s'est identifié à nous, les hommes pécheurs. Il a vécu jusqu'à la mort dans l'obéissance à Dieu. Puis le châtiment est tombé. Mais parce qu'il a vécu toute sa vie sans péché et qu'il est mort d'une mort volontaire, mais le châtiment qui pesait sur l'humanité est tombé sur tous les enfants de Dieu. Il n'est plus là. C'est pour ça qu'il est dit que le diable a été réduit à l'impuissance, où il a été écrasé. Pour les fils de Dieu, les fils que Dieu voulait que Jésus conduise à la gloire, le diable n'a plus d'emprise. La prison a été détruite. Jésus a délivré même tous les enfants de Dieu parce que Dieu les a unis à Jésus. Il dit, j'accepte, Dieu le Père accepte que Jésus soit le nouveau représentant de ses enfants, le nouveau représentant de l'humanité pour ceux qui veulent bien s'unir à Jésus. Avant, nous étions identifiés comme des fils d'Adam. Maintenant, nous pouvons être des fils de Dieu, des frères de Jésus. Ceux qui sont sauvés sont en Jésus. Donc, on a vu comment Jésus a été élevé au rang de Dieu, où il peut être un. Mais Jésus a prié dans sa prière. Il veut que ses enfants, ceux que le Père lui a donnés, soient un avec lui aussi. Wow! En faisant cela, la seule chose qu'il avait à faire, Dieu, Jésus, c'était de mourir sur la croix pour nous, prendre le châtiment pour nous. Et la peine a été enlevée. La prison a été détruite. Et là, les enfants de Dieu peuvent être un avec Jésus et avec Dieu. Et Satan a perdu tout pouvoir sur eux. Donc, Jésus est notre guide qui nous conduit à Dieu. Il est notre libérateur. Mais il reste un problème. C'est que nous sommes encore sur cette terre et nous péchons encore. Oui, nous sommes libérés, mais nous sommes encore pécheurs. Nous avons besoin d'aide dans ce parcours-là. Il y a un guide qui nous montre le chemin. Il y a un libérateur qui a permis qu'on puisse entrer sur le chemin. N'est pas suffisant. On a besoin d'aide pour avancer. Lorsqu'on tombe, on s'écarte. On oublie même qu'on est sur le chemin, puis on s'en va à gauche et à droite. On a besoin d'une aide. Et ça, c'est l'autre raison qui est montrée dans le texte pour laquelle Jésus devait être un homme. C'était pour vivre parmi nous, pour nous comprendre, comprendre nos combats, comprendre nos tentations, comprendre notre état de faiblesse, compatir à nous, et ensuite pouvoir nous aider avec une aide concrète, une aide particulière pour chacun de nous. On va voir plus loin dans l'Épître d'Hébreux que Jésus, en tant que sacrificateur, il a offert un sacrifice une fois pour toutes. Mais ici, au chapitre 2, l'auteur s'attarde à dire qu'en tant que sacrificateur, il est là à chaque pas que l'on fait sur notre route, à tous les jours de notre vie, à chaque instant. C'est un sacrificateur qui est toujours là pour nous représenter devant Dieu. Parce que nous demeurons faibles. Oui, on a été revêtus d'une force. Satan n'a plus d'emprise sur nous pour maintenir dans la mort. Mais on demeure des êtres faibles. On n'est pas encore arrivé à la gloire de Dieu. Lisons les derniers versets, à partir du verset 16. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ce n'est pas n'importe quel sacrificateur qui nous représente devant Dieu, c'est un sacrificateur qui est miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire que jamais qu'il va dire « Ah là, je suis tanné de vous autres, là. Ça fait tellement de fois que vous tombez, débrouillez-vous. » Il a toujours de la compassion pour nous. Et il a toujours de la pitié pour nous. Il sait que s'il nous laisse, on va être comme des brebis sans berger, comme des aveugles qui n'ont personne pour les conduire. Il a compassion de nous. Et même si on ne mérite pas son aide, il nous aide. C'est par grâce qu'il nous aide. Donc, on a un sacrificateur miséricordieux et en plus qui est fidèle. Et ça, on l'a vu, il l'a prouvé dans son existence sur la terre, dans son ministère. Il a été fidèle à chaque instant. Il a toujours obéi à Dieu. Il a toujours respecté sa mission, son rôle, autant envers Dieu qu'envers les hommes. On peut croire que maintenant, même s'il est rendu au ciel auprès de Dieu, il demeure fidèle. Il ne va jamais nous abandonner. Donc, c'est un sacrificateur en qui on peut avoir confiance. Ce n'est pas comme un sacrificateur humain ou comme un prêtre, un membre d'un clergé qui est aussi faible que nous. C'est un sacrificateur parfait, qui est bon en tout temps, qui est fidèle jusqu'à la mort. Et Jésus nous connaît, il nous comprend. Il ne nous abandonne jamais. Et il a prouvé sa fidélité alors qu'il était faible comme nous, c'est-à-dire sujet à la tentation. Être tenté, ça ne veut pas dire qu'on pêche. Être tenté, ce n'est pas mal. Parce que nous sommes tous tentés. À certains moments de notre vie, on est même encore plus tenté qu'à d'autres moments. On vit des combats plus durs. Ce qui est un péché, c'est de tomber, de succomber à la tentation. Mais la tentation elle-même n'est pas un péché. Et Jésus a vécu les mêmes tentations que nous. C'est difficile à comprendre. Que le Fils de Dieu, fait homme, a été tenté de la même manière que nous. Il a été tenté d'acquérir des richesses. Il a été tenté d'avoir une renommée grande et d'avoir la gloire. Il a été tenté d'avoir le pouvoir et il aurait pu. Il a été tenté par les plaisirs de ce monde, même sûrement par les plaisirs charnels. Il était un homme comme nous. Il a été tenté en tout comme nous, mais jamais qu'il a tombé. Il a peut-être lui-même désiré le confort de pouvoir se reposer. Quand ça faisait un an qu'il était dans le ministère, à marcher à gauche et à droite dans les villages, là, sûrement qu'il avait le goût de prendre un année sabbatique. Mais ce n'était pas son ministère. Ce n'était pas sa mission. Il devait poursuivre. Puis, ultimement, il a sûrement été tenté, parce que c'est l'instinct de survie là, de l'être humain, là. Il a été tenté de garder sa vie, de se protéger. Alors qu'il allait être cloué sur la croix, il savait exactement qu'est-ce qu'il allait vivre, là, et comment il allait mourir, comment il allait souffrir. Il avait juste à faire un claquement de doigts et les anges venaient le libérer. Il a été tenté sûrement, là, de ne pas vivre ce cauchemar. Mais il a résisté. Il a considéré que la bonté de Dieu était, valait plus que sa propre vie. Donc Jésus nous comprend dans toutes nos tentations. Et c'est pour ça qu'il nous a enseigné, même là, dans la prière, qu'il nous a enseigné le modèle qu'on appelle le Notre Père. On prie Dieu, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Dieu peut nous épargner selon notre demande. Il peut éloigner de la tentation, nous laisser souffler un peu. Il nous comprend, c'est Jésus qui nous a invités à faire cette prière-là. Il sait c'est quoi. Être tenté, c'est souffrir. C'est pour ça qu'il dit au verset 18, « Il a souffert lui-même quand il fut tenté. » C'est une grande souffrance. Et même si on est épargné des formes de souffrance physique, par exemple la maladie, où on ne vit pas de problèmes financiers, où on n'est pas... Ici, au Canada, on est en paix, en plus on ne vit pas les souffrances de la guerre. Mais on est bien, on est confortable. Mais même si on est épargné ces souffrances-là, on vit tous la souffrance de lutter contre la tentation. Et ça, c'est notre fardeau jusqu'à la fin de nos jours. Mais Jésus compatit à cela. Il sait par quoi nous passons. Et il veut nous offrir son aide. Il peut nous donner l'aide dont on a besoin. Donc, quand on est tenté, notre réflexe premier devrait être de se tourner vers Jésus. « Viens à mon secours. Aide-moi, tu me comprends, tu sais ce que je vis là. Tu sais que c'est plus fort que moi. Aide-moi, je sais que je ne mérite pas, parce que ça fait déjà 100 fois que je tombe. Mais aie pitié de moi, puis viens me secourir. » Mais ça arrive qu'on tombe régulièrement. Et c'est pour ça que Jésus est présenté comme le sacrificateur qui peut expier nos péchés devant Dieu. Non seulement il l'a fait une fois pour toutes pour nous délivrer de la mort, mais il le fait à chaque jour, à chaque fois qu'on tombe. Il est fidèle pour expier nos péchés. C'est un sacrificateur qui se présente devant Dieu et qui plaide en notre faveur et qui nous obtient le pardon de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque pour ceux qui sont les enfants de Dieu de retomber sous la colère de Dieu parce qu'on a péché. Satan peut nous envoyer cette idée fausse dans la tête, nous dire « Ah, maintenant tu es condamné, tu as péché, Dieu ne peut plus te pardonner. Tes péchés sont impardonnables, tu es retombé sous la colère de Dieu. » Mais c'est faux, parce que Jésus est notre sacrificateur devant Dieu et il est fidèle, il nous obtient le pardon de Dieu. Il expie lui-même nos péchés. Il nous donne accès au pardon de Dieu en tout temps, de sorte qu'on ne retombe plus sous la colère de Dieu. C'est un guide qui marche, oui, et qui nous montre le chemin, mais qui ne laisse personne derrière. Il s'assure que personne ne va traîner de la patte, ne va être oublié en chemin. Tous sont conduits vers Dieu. Tous ceux qui sont les fils de Dieu, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Ce parcours-là, les anges le voient. Ils voient l'œuvre de Jésus en tant que guide, conducteur, sacrificateur pour nous, pour la race humaine. Et les anges sont ébahis de voir cela. Ça dit qu'ils plongent leur regard dans le plan de la grâce de Dieu. Ils sont impressionnés. Et eux n'ont pas accès à ce plan-là. Ce n'est pas pour eux. Et l'œuvre de Jésus les dépasse de loin. L'œuvre que Jésus fait en nous conduisant à la gloire de Dieu surpasse toutes les œuvres des anges. Et c'est en tant qu'homme qu'il le fait. C'est le Fils de l'homme qui fait cela. Donc, puisque Jésus a pu supporter l'humiliation d'être un faible homme sur la terre, qui a supporté jusqu'à la mort, et qui a été récompensé d'une gloire supérieure aux anges, bien, suivons son exemple. Humilions-nous, nous aussi. Ne nous rebellons pas contre Dieu. Oui, on vit encore des conséquences de notre nature pécheresse. On va tous passer par la mort, à moins que le Seigneur Jésus revienne avant. Mais acceptons-le. Notre première nature était d'être des fils d'Adam. Mais gardons les yeux sur la récompense finale. Que nous sommes les enfants de Dieu maintenant, les frères de Jésus. C'est ça qui nous aide à passer à travers les épreuves de la vie et à continuer, même si le parcours dans lequel Jésus nous a amenés est difficile. C'est comme si on passe dans les ronces. qu'on passe dans la jungle. Jésus est devant qui coupe les lianes, mais nous, c'est difficile. On se cogne sur les arbres. Il y a de la souffrance jusqu'à temps d'arriver finalement à la ligne d'arrivée. Mais c'est à la ligne d'arrivée qu'on doit garder les yeux pour ne pas se décourager et demander l'aide de Jésus lorsqu'on a de la misère à suivre. Jésus est notre guide, donc suivons-le. Étudions la Bible pour voir de quelle manière il marche pour suivre ses traces. Il est notre frère aussi, donc ne lui faisons pas honte. Ceux qui savent que nous sommes chrétiens nous observent. Et nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, les frères de Jésus. Lui n'a pas honte d'être appelé notre frère. Mais ne lui donnons pas d'occasion d'avoir honte de nous. Puis il est notre libérateur, donc, s'il nous a libérés de la puissance de Satan et de la prison. Si maintenant nous n'avons plus de chaînes qui nous retiennent en arrière, nous n'avons plus d'excuses, mais ne retombons pas comme si nous étions dominés par le mal, dominés par Satan. Soyons conscients que nous sommes libérés de cela. Avançons. Arrêtons de nous faire croire que nous avons une chaîne qui nous retient en arrière. C'est faux. Nous n'avons pas d'excuses pour avancer. Puis si Jésus est notre sacrificateur, celui qui nous aime, qui est fidèle, mais faisons-lui confiance. C'est vrai qu'on vit des difficultés, mais ne doutons jamais de son amour. N'ayons aucune crainte même. Dieu veut qu'on enlève la peur de notre esprit. Persévérons et ayons recours à son aide précieuse. Amen.